Nous voulons invoquer la bénédiction de Dieu sur ces moments. Il convient, ô notre Dieu, que nous nous courbions devant toi pour implorer le secours de ton esprit que tu nous as donné, afin qu'il puisse agir sans aucune entrave en chacun de nos cœurs, et que nous puissions ce soir recevoir le message qui vient de ton trône. Donne-nous d'être assez libérés pour que ce message puisse nous traverser, que nous soyons un canal entièrement purifié et qu'aucune souillure ne puisse corrompre la beauté de ta parole. Que nous ne profanions pas les choses saintes que tu veux nous dire ce soir et que nous soyons les uns et les autres subjugués par ton esprit et émerveillés, que tu te sois abaissé à prendre un langage qui peut tellement nous rejoindre et nous faire comprendre l'immensité de ton amour. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Nous sommes arrivés, mes amis, au mardi soir, 29 juillet, et notre thème est donc « Qui donc est Dieu ?» Et nous plongeons nos regards, comme jadis les prophètes, dans les Écritures, pour découvrir qui est Dieu. Et au cours de ces soirées et de ces journées, c'est le cantique des cantiques qui nous occupe plus particulièrement. Et ce soir, nous avons proposé le chapitre 7, versets 1 à 5. Que tes pieds sont beaux dans ta chaussure, fil de prince. Les contours de tes hanches sont comme des joyaux, ouvrage de main d'un artiste. Ton nombril est une coupe arrondie où le vin aromatique ne manque pas. Ton ventre, un tas de froment entouré de lys. Tes deux seins sont comme deux faons jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme des étangs qui sont à Hesbon vers la porte de Batrabim. Ton nez est comme la tour du Liban qui regarde vers Damas. Ta tête sur toi, comme le Carmel, et les cheveux de ta tête, comme la pourpre. Un roi est enchaîné par tes boucles. Saint, 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 et l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de ta gloire. Sanctifie-nous par ta parole. Ta parole est la vérité. Amen. Avant de considérer les passages que nous venons de lire, j'ai été conduit dans la prière à comprendre que je devais peut-être vous donner un petit complément à ce que nous avons vu ce matin au sujet du vieil homme. je voudrais que vous ayez tous bien compris ce que veut dire cette expression et que vous ayez saisi la nuance qu'il y a entre le vieil homme, selon l'Écriture, et ce qui est appelé la chair. Je vous ai dit que la chair, c'est ce principe mauvais que nous avons tous hérité de nos pères depuis la chute. L'homme ayant désobéi à Dieu, la communication qu'il avait avec Dieu a été rompue et au fond, il a tout perdu. Il est retombé sur lui-même, de sorte que Dieu disait qu'il n'était plus que chair. Quand il le considère, Dieu dit « l'homme n'est plus que chair ». Au fond, la chute, c'est l'homme qui est retombé sur lui-même, ayant perdu le contact avec Dieu. Et alors, nous héritons cela, la chair. Nous naissons de la chair. Et il est dit que ce qui est chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui caractérise la chair, c'est sa faiblesse incurable. Elle se croit forte alors qu'elle n'est que faiblesse et impuissante. Mais elle croit qu'elle peut encore arriver. Et il faut vraiment que nous ayons une révélation et quelquefois de douloureuses expériences pour nous rendre compte que la chair ne peut pas faire le bien. C'est une impossibilité pour la chair de faire le bien. Maintenant, nous avons parlé du vieil homme. Le vieil homme, c'est en quelque sorte l'enfant de la chair et du péché. Le péché est entré dans la chair et a produit ce qu'on appelle le vieil homme. Et le vieil homme, c'est donc notre ancienne manière de vivre, avant notre conversion. Ce qui nous caractérise, c'est une certaine manière de vivre qu'on a héritée, dit l'apôtre Pierre, de nos pères. En opposition à la chair, vous avez l'esprit. L'esprit de Dieu, qui nous a été donné. Et la parole par laquelle nous avons été engendrés. Le nouvel homme est donc l'enfant, si j'ose dire ainsi, de l'esprit et de la parole. Nous sommes nés d'eau et d'esprit. C'est en quelque sorte la parole de Dieu qui devient notre mère et l'Esprit de Dieu qui est notre père spirituel. Nous sommes les enfants de l'Esprit Saint qui nous a régénérés et de la parole de Dieu et qui nous a enfantés. De sorte que quand nous acceptons le Seigneur, qu'arrive-t-il ? Qu'est-ce qui prend fin lorsque nous avons la rencontre avec Jésus à la croix de Golgotha? Eh bien, c'est le vieil homme qui prend fin. Il a été crucifié avec le Christ. Le vieil homme est mort, est enseveli et ressuscité en Jésus. Il y a maintenant le nouvel homme, qui est notre nouvelle manière de vivre. À notre ancienne manière de vivre, nous avons entièrement renoncé. Et le vieil homme est enterré. Romains 6, Colossiens 2 et Éphésiens 4. Le vieil homme est toujours considéré comme mort et enseveli. Le nouvel homme, c'est notre nouvelle manière de vivre. Mais alors, ce que je voudrais ajouter simplement ici, c'est qu'on ne peut pas être irrégénéré et régénéré en même temps. Vous êtes d'accord? Quand nous étions loin du Seigneur, nous étions irrégénérés. Et alors, la manifestation de la chair et du péché en nous, c'était le vieil homme. Mais maintenant que nous sommes en Christ, nous sommes régénérés. De sorte que notre manière de vivre, elle est entièrement nouvelle. Mais ce qui nous arrive, c'est que l'on peut dégénérer. Et qu'est-ce que c'est que dégénérer? Eh bien, c'est quand on est né de nouveau et qu'on retourne prendre les habitudes qu'avait le vieil homme. Ce que j'appellerai ces habitudes, les habits du vieil homme. Le vieil homme doit être enterré avec ses habits. Vous n'allez pas le mettre tout nu. Enterrez-le avec ses habits, avec ses habitudes, ses coutumes. Le Seigneur, pour revêtir le nouvel homme, vous donne des habits entièrement nouveaux, et même des sous-vêtements. Et je voudrais que vous soyez bien conscients de cela. Je vous donnerai maintenant la liste des habits du vieil homme, qui sont aussi dans la tombe avec le vieil homme. Il ne faut pas les déterrer, le vieil homme. Parce que si vous allez voir comment il est, ce vieil homme, et vous le faites souvent, vous voulez voir si vraiment il est mort ou si vraiment il se corrompt, eh bien, quand vous allez au cimetière, qu'est-ce que vous trouvez? La corruption plus grande. Il n'y a pas d'amélioration pour le vieil homme. Et puis, si vous allez reprendre les habits du vieil homme, ça ne sent pas bon. Et ça ne va pas. Alors, mettre les habits du vieil homme sur le nouvel homme, c'est vraiment dégénéré. Mais ça peut arriver, hélas, aux chrétiens. Ainsi, quand vous étiez dans la chair, marchant selon la chair, qui dirigeait son enfant, qui était le vieil homme, qu'est-ce que vous faisiez? Vous mentiez comme vous respiriez. On pouvait mentir. Le mensonge, c'était admis. Vous pouviez vous livrer à l'impudicité. C'était admis. C'était toutes les habitudes du vieil homme. Mais maintenant que vous êtes né de nouveau, vous en avez fini avec ces choses-là. Parce que vous n'allez pas reprendre ces habitudes. Et c'est pourquoi je vous lis maintenant dans Colossiens 3, verset 5. Faites donc mourir ou mortifier les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À quoi? Les habitudes du vieil homme? La colère. Est-ce qu'il y en a qui se mettent en colère? Ou qui ont la tendance à se mettre en colère? C'était une manière de vivre du vieil homme. Mais vous n'allez plus vous mettre en colère. Vous dites, mais enfin moi, j'ai hérité ça de ma grand-mère, ou de je ne sais trop quoi. Mais vous êtes mort. Vous ne pouvez plus vous excuser ainsi, en disant que c'est votre hérédité. C'est faux et faux et faux, même si tous les psychologues vous disent le contraire. À la croix, vous êtes mort à votre ancienne manière de vivre. Alors, croyez-le, emparez-vous de cette parole comme une certitude. Tu l'as dit, Seigneur, eh bien je crois, je suis mort. Et vous verrez que le Seigneur vous libérera complètement de ce tempérament colérique, parce que ce n'est plus vous cela. Votre tempérament nouveau, c'est le Christ. Les sentiments qui doivent vous habiter sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous me direz, oui, mais lui, vous êtes tout de suite soulagé, il se mettait en colère quelquefois. Alors vous aussi, vous pouvez vous mettre en colère. Oui, mais la colère de Jésus, c'était une sainte colère. Hein.
Et ne justifiez pas vos colères en disant que ce sont des saintes colères. Parce que là, nous biaisons de nouveau. La colère de Jésus, c'était la réaction du bien en face du mal. C'est ça. C'est ça la colère du Seigneur. La réaction du bien en face du mal. Alors, passons plus loin. Donc, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ça, quand nous étions dans la chair, soumis à la chair, eh bien, le vieil homme manifestait tout ce que la chair voulait. Nous étions l'enfant de la chair et du péché. Vous ne pouvez pas faire autrement. Mais cet enfant-là est mort. Il a été enterré. La chair, évidemment, elle est là. La chair n'est pas morte. Mais il faut la tenir dans la mort. Mais vous n'êtes plus redevable à la chair pour vivre selon la chair. Vous n'êtes plus sous la domination de la chair. Vous êtes sous la domination de vos parents nouveaux qui sont l'Esprit Saint et la parole. Et ces parents-là vous donneront tout ce qu'il faut pour que vous puissiez grandir dans la grâce et vous fortifier de jour en jour. Verset 9 encore. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Vous voyez, on est dépouillés maintenant du vieil homme, de ses habitudes. Le vieil homme est mort et nous sommes dépouillés de tout ce qui concernait le vieil homme. Ça, ce sont les dépouilles du vieil homme. Vous en êtes dépouillés. Vous êtes jugés de tout cela. Et vous avez revêtu, verset 10, l'homme nouveau. L'homme nouveau a de nouveaux habits. C'est une nouvelle manière de vivre que le monde constate, que le monde regarde. Il voit ce changement. Et voyez-vous, moi, je ne suis pas impressionné par les gens qui viennent nous rendre témoignage. Mais je suis impressionné par le monde qui rend témoignage à une vie de chrétien. C'est beaucoup plus important. Que les gens du monde qui vous voient disent, ces gens-là sont transformés. Plutôt que de vous entendre dire, voilà ce que j'étais avant, puis voilà ce que le Seigneur Jésus a fait de moi. Puis ceux qui vous connaissent d'un peu très près, hein, disent, il n'a pas tellement changé. Je n'ai pas tellement changé quand on la voit. Et nous ne les illusionnons pas. Mais s'il y a réalité, transformation dans votre vie, le monde en parle. Parce qu'il vous observe. Vous pouvez être sûr de cela. Et ça, ça vaut la peine. Parce que nous, nous sommes toujours portés, quand nous voulons rendre témoignage, à nous noircir encore davantage que nous étions, pour montrer après, vous voyez comme maintenant je suis beau. Hein. Je suis tout blanc. On a cette tendance, on en dit plus encore qu'on en a fait. Parce que ça augmente la grandeur de la délivrance. Nous sommes défendus. Il faut bien le reconnaître. C'est pourquoi nous voulons la vérité, parce que Dieu est un Dieu de vérité qui ne supporte pas le mensonge, et il est un Dieu de lumière. Et il veut la vérité dans l'homme intérieur, il veut qu'elle soit au fond de nos cœurs. Alors, nous avons revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle. Vous voyez, il est toujours à la mode. Il y a un renouvellement. Mais est-ce que c'est le renouvellement de l'esprit et de la parole? Ou bien est-ce que c'est vous qui voulez vous vêtir selon vos idées? C'est l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qu'il a créé. Qu'est-ce qu'il a créé? C'est Dieu. Il n'y a ni grec, ni juif. Vous ne pouvez pas dire, oh, mais ça c'est les coutumes que j'avais quand j'étais grec. Ou c'est les coutumes que j'avais quand j'étais juif. Écoutez, j'étais crétois de nature. Alors tous les crétois sont des menteurs, des ventes paresseux, etc. Moi je suis paresseux, je suis crétois. J'ai hérité ça de mes ancêtres. Non, c'est fini. Le crétois, il est mort, comme le suisse, comme le russe, comme l'américain. Nous avons été crucifiés avec Christ. Il y a un homme nouveau. Et nous sommes alors nés du même père et de la même mère, nous sommes des, pas des demi-frères ou des demi-sœurs, nous sommes des frères et des sœurs en Christ, pas des cousins. Et nous devons nous reconnaître comme frères et sœurs en Christ, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Oui, il n'y a plus ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Donc on doit avoir un air de famille. Christ est tout en tous. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Il nous faut réentendre cela comme si c'était la première fois. Et il faut que ces paroles nous pénètrent. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, parce que nous sommes élus, saints et bien-aimés, revêtez-vous. Et alors voilà les vêtements du nouvel homme. Je dirais d'abord les sous-vêtements. D'entrailles de miséricorde. L'apôtre Paul, avant sa conversion, quand il était Saul de Tarse, il avait des entrailles de fer. Il était dur. Il pouvait voir le sang d'Étienne couler. Et puis, il n'était pas encore satisfait. Plein de rage, de violence, il allait pour faire couler le sang et les larmes à Damas, justement. Eh bien, mes amis si chers, nous voulons comprendre quels sont nos sous-vêtements, des entrailles de miséricorde. Qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Parce qu'on va parler du ventre tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez dans le ventre? On le dit quelquefois. Dans le monde. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le monde, celui-là? C'est vrai? On le dit. Mais qu'est-ce que vous avez dans le ventre? Des entrailles de miséricorde. Vous n'avez pas besoin de le dire, on le voit. Si c'est cela. Si vous êtes miséricordieux parce que miséricorde vous a été faite. On voit que vous êtes un être miséricordieux. Que vous avez des entrailles de miséricorde. C'est plus votre dureté naturelle. Parce qu'on peut être né avec des entrailles dures. Et puis, de bonté, des entrailles de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Voilà les sous-vêtements du nouvel homme. Et puis, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Voilà ce qui manifeste la vie du nouvel homme. Nous sommes des hommes et des femmes qui sont portés à se pardonner les uns les autres, à se supporter les uns les autres. Ce sont là nos vêtements par-dessus nos sous-vêtements. Et vous avez encore un par-dessus. C'est au verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, hein, vous voyez que vous n'aurez pas froid l'hiver, il y a un par-dessus. Par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour, du vrai agapé, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Voilà les vêtements du nouvel homme. Mais quant aux vêtements du vieil homme, nous y avons entièrement renoncé et nous ne voulons pas être de ceux qui dégénèrent. Un chrétien authentique qui se laisse aller au mensonge, il est de nouveau irrégénéré? Non, il dégénère. Et sa conscience le lui dit. Alors, puisque j'ai une conscience, puisque la parole m'éclaire, je suis nourri de la parole, je sais que le Saint-Esprit est attristé et contristé. Et alors, je m'en humilie et je me repens devant le Seigneur et je dis, ben maintenant, tu ne vas pas me laisser dans cet état puisque ton sang me couvre, mais j'ai compris que je t'ai blessé, Seigneur, et je lui demande mon pardon. Il ne repousse pas un cœur brisé et humilié. Mais on ne reste pas dans cet état. Si vous vous êtes laissé surprendre à reprendre un habit du vieil homme, une de ses guenilles, bien non.
renoncer à cela. Or, le monde, justement, il voit cela. Il voit une foule de gens qui se disent régénérés et qui ont les habits de l'ancien homme. Et ça ne les attire pas. Je voulais seulement ajouter cela à ce que j'ai essayé de vous dire. Mais la chair, elle est là, c'est vrai, mais elle n'a plus à dominer. Le péché ne dominera plus sur vous parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Parce que maintenant vous connaissez ce que c'est que l'amour. Vous savez aimer de Dieu. Alors nous arrivons maintenant à notre cantique des cantiques. Et je dirais qu'au verset 13 que nous avons considéré ce matin, du chapitre 6, nous trouvons la bien-aimée appelée pour la première fois, vous l'avez remarqué, Sulamite. Sulamite qui veut dire la pacifiée. Avant, nous pouvons lui trouver au moins une vingtaine de noms. Elle est l'amante qui me baise des baisers de sa bouche. Elle se dit noire, on pourrait l'appeler la noire. Elle est la belle, elle est la voilée, elle est comparée à la jument. Elle est le narcisse de Saron, le lys des vallées, la colombe, le jardin clos, la fontaine scellée, la source fermée, la fontaine dans les jardins, le puits d'eau vive, la fiancée, la sœur, l'amie, la parfaite, l'unique, et nous l'avons vu aussi, la redoutable. La redoutable. L'identique à l'aurore, à la lune et même au soleil. Et que sais-je encore, hein? Vous pouvez repasser tous les noms qui ont été donnés. Mais maintenant, voilà que son nom alors nous est donné. Pour quelle raison? Qu'elle s'appelle comme Salomon, puisque Sulamite, c'est le féminin de Salomon, eh bien, c'est parce que les noces ont eu lieu. Et quand les noces ont eu lieu, on porte le nom de son mari, au moins ce temps-là, hein, parce que maintenant, on change tout ça. Mais elle a maintenant le nom de son bien-aimé. Un nom qui correspond, elle porte le nom du bien-aimé. Si lui est le pacifique, elle est la pacifiée. Et c'est tellement beau. Une union merveilleuse entre le pacifique et la pacifiée. Alors, ensemble, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Et les âmes qui lui sont liées, d'une manière ou d'une autre, veulent la voir. On veut voir les mariés. On veut les voir. Alors, il y a cette demande. Reviens, Sulamite, afin que nous te voyons. On voudrait la voir maintenant, dans cet état nouveau. Et les âmes, donc, qui lui sont liées, veulent la voir. Et c'est ce cri « reviens, reviens » qui est prononcé combien de fois? Quatre fois. Quatre fois. Ça vaut la peine de s'y arrêter. Le monde, les nations, voudraient la voir. Tout ce cœur-là, et qui parle. Nous voudrions voir Jésus, disaient les Grecs. Quand ils venaient à Jérusalem, ils rencontraient les apôtres, ils avaient fait un voyage pour trouver Jésus à Jérusalem, et qu'est-ce qu'ils voulaient voir? Ce n'étaient pas les apôtres. Ils voulaient voir Jésus. Jean, chapitre 12. Nous voulons voir Jésus. Ils voudraient voir Jésus. Eh bien, le monde aujourd'hui a un grand besoin. Il voudrait voir le vrai visage de la bien-aimée. Il voudrait voir le visage de l'Église, mais une Église qui serait pacifiée, ou une âme possédant la paix intérieure et la paix extérieure. Parce que on a cherché surtout l'interprétation qui montre les expériences d'une âme, d'un individu qui est fiancé au Seigneur. Mais on peut aussi suivre l'interprétation qui nous montre dans la bien-aimée l'Église, corps du Christ, hein, ou l'âme individuelle, ou l'Église comme le peuple d'Israël y voit Israël. c'est une âme pacifiée. Le monde voudrait voir cette paix. Nous sommes dans l'année de la paix, soi-disant, hein, d'après l'ONU. Et est-ce que vous voyez les gens paisibles? Hein? Paix intérieure, puis paix extérieure. Il n'y a ni paix à l'intérieur, ni paix à l'extérieur. Et c'est cela que vous devez comprendre. Les gens voudraient que votre vie soit une manifestation de la paix qui vous domine. La paix de Dieu, il est dit qu'elle surpasse toute intelligence. Parce qu'on la garde même dans les jours les plus difficiles et les plus troublés. On reste en paix. Parce que c'est le Seigneur qui a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point. Et quand je me trouble, et quand je suis inquiet, eh bien, comme je le disais l'autre jour, j'ai dû reconnaître devant Dieu que j'étais dans le péché. Et mes soucis, mes inquiétudes, maintenant, je les confesse au Seigneur comme étant des péchés. Et alors, j'en suis libéré. Et vous me direz, oui, mais alors, vous n'avez pas encore la délivrance. Vous ne savez pas comment vous allez vous en sortir. Mais ce n'est pas moi qui vais m'en sortir. Mais je lui fais confiance. Et au lieu de me lamenter, de me désespérer, je me réjouis en me disant, comment vas-tu t'y prendre pour m'en sortir? Parce que je m'attends à lui. Et alors, cette espérance, parce qu'il y a toujours des nouveautés avec lui, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant pour Dieu? Nous devrions être de ceux qui s'attendent à une délivrance et qui l'attendent dans la certitude qu'ils ne seront pas trompés, parce que notre espérance dans le Seigneur ne nous confond point. Alors vous pouvez lui faire confiance, éperdument. Et si vous vous êtes laissé à l'inquiétude, confessez l'inquiétude. Ne vous inquiétez de rien, dit l'Écriture, mais en toute chose, exposez vos requêtes à Dieu par des prières et des supplications, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. On ne peut pas comprendre. Je suis dans la paix. Mais comment vous êtes dans cette situation que vous êtes dans la paix? Oui, je suis dans la paix. La paix de Dieu. C'est quelque chose. Paix à l'intérieur. Et voyez-vous, le monde voudrait rencontrer de ces âmes qui ont la paix et qui apportent la paix, qui sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui apportent la paix. Alors, la question qui a été donnée, mais c'est que verriez-vous dans la tsunamite? Vous voulez voir la tsunamite? Vous lui dites, reviens, reviens, afin que nous te voyions. Mais qu'est-ce que vous allez voir dans la tsunamite? Qu'est-ce que vous allez voir dans l'âme rachetée? Qu'est-ce que vous allez voir dans l'église dite chrétienne aujourd'hui, dans ce qui s'appelle église? Si l'église était ce qu'elle doit être, elle serait, comme nous l'avons vu, la redoutable. Et notre âme aussi, individuellement, eh bien, nous serions des victorieux par notre union au bien-aimé. Oui, nous serions terribles sous la bannière d'amour du bien-aimé. Et le monde saurait qu'il y a dans le chrétien une force qu'aucune puissance terrestre ne peut donner. Dans votre relation avec Dieu, vous avez à votre disposition la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Toute la puissance qui a fait sortir le Christ d'entre les morts, c'est la même puissance qui est à votre disposition pour que vous puissiez vaincre les ennemis que vous rencontrez sur votre route. Et voyez-vous, si on demande à voir l'Église telle que Jésus la voudrait, on ne la verrait pas opposée en deux camps ennemis prêts à se combattre, comme ça a été le cas au travers des âges. Au fond, l'Église, eh bien, est devenue deux camps, et puis ensuite, il y en a eu encore un troisième. Avant, il y a eu la division entre le catholicisme et l'Église orthodoxe, puis après, il y a eu le protestantisme, et alors, voilà, tous ces camps sont en opposition, et les gens qui voudraient croire, et ils voudraient voir une église unie, eh bien, ils voient une église divisée. Et donc, ce qui se prétend être une église unie, c'est plein de divisions.
c'est une unité de façade. Mais les cœurs ne sont pas unis. Si l'Église était ce qu'elle devrait être, on ne la verrait plus opposée en deux camps ennemis prêts à se combattre, mais comme un couple amoureux, on les verrait danser tendrement, enlacés. Les deux camps qui se faisaient la guerre sont vus maintenant, comme on l'a dit, en un couple amoureux qui danse. C'est la danse Mahanaïm. La danse Mahanaïm. Les âmes se sont rencontrées. Est-ce que vous voulez vous battre? Est-ce que vous voulez faire deux camps maintenant? Ou bien, est-ce que dans l'unité, vous allez danser de joie en disant, nous avons appris à nous aimer, on avait une autre étiquette, on est venu ici avec toute espèce d'idées, on se faisait des idées, des illusions aussi sur ceci, sur cela. Nous étions mal informés, mais maintenant nous avons appris à nous connaître et à nous aimer, et maintenant nous pouvons nous réjouir ensemble. Et alors, ce que nous avons appris, c'est que l'âme ou l'Église, revêtue de toutes les armes de Dieu, elle doit avoir la victoire, quelle que soit la situation. Est-ce que vous le croyez? Vous pouvez et vous devez avoir la victoire, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Parce qu'il n'est plus question de votre hérédité. Vous êtes mort. C'est fini, ça. Hein? La mort a terminé le conflit. Vous êtes mort. Alors n'allez pas déterrer le cadavre. Laissez-le où il se trouve. Et regardez à celui qui devient votre vie et qui veut croître en vous. Quelle que soit votre situation. Et là, je pourrais vous dire, pour votre méditation, allez voir l'Église ou ce que nous dit le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, où nous voyons différentes églises, sept églises, qui ne sont pas toutes dans le même état. Eh bien, pour chacune de ces églises, il y a une mention de victoire. Il peut y avoir des vainqueurs dans chacune de ces églises. Vous me dites, moi, ce qui me manque, c'est que j'ai abandonné le premier amour. Je n'ai plus le premier amour. Vous êtes comme l'église d'Éphèse. Hein? Eh bien, à l'église d'Éphèse, où il lui est reproché de ne plus avoir le premier amour, qu'est-ce qu'il lui est dit? C'est fini pour toi? À celui qui vaincra. Une fois que vous avez constaté, c'est ça mon mal, j'ai abandonné le premier amour, eh bien, le Seigneur vous montre ce que vous avez à faire pour retrouver ce premier amour, et il vous promet que si vous avez des oreilles qui écoutent, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra à Éphèse, Dieu lui promet quoi? Le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est pas rien. Je te donnerai le fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Maintenant, si tu es comme à Smyrne, dans une église persécutée, où tu sens une menace de mort, le Seigneur te dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Celui qui vaincra, je lui donnerai la couronne de vie. C'est merveilleux. Et puis, si tu es dans l'église de Sardes, qui se trouve là où Satan habite, vous me dites, mais moi, je suis tellement proche du monde à cause de mes affaires, à cause de mon travail, je suis vraiment là où Satan habite. Bien oui, eh bien, si tu es là où Satan habite, le prince de ce monde, eh bien, tu peux aussi devenir un vainqueur. Celui qui vaincra là où Satan lui-même a son trône, eh bien, il est dit qu'il obtiendra la manne cachée, un caillou blanc et un nom nouveau. Je vous donne juste ces jalons. Si tu es à Thyatire, où se trouve une femme semblable à la Jézabel dont nous avons parlé, une femme qui enseigne des fausses doctrines, si tu es dans une église telle, et que tu te dis, moi je ne pourrais pas m'en sortir, eh bien pourtant le Seigneur te dit, sois un vainqueur. Je te donnerai autorité sur les nations. Et si tu es dans une église semblable à Philadelphie, qui est fidèle à la parole, mais qui a peu de force, eh bien, sois un vainqueur. Et le Seigneur te dit, je ferai de toi une colonne dans le temple de mon Dieu. Et si tu es dans une église, quelle est la septième église ?
Laodicée.
Eh bien, une église qui se croit riche, n'ayant besoin de rien, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, ça ne nous concerne pas tout cela, hein. Eh bien, si tu es dans cette église-là, reconnais justement ce que Dieu te dit, reconnais ta pauvreté, reconnais que tu as besoin d'un collyre pour oindre tes yeux afin que tu vois d'une façon claire, reconnais ta nudité, au fond tu te crois vêtu, mais tu es nu aux yeux de Dieu et aux yeux du monde, ils le savent bien, alors, le Seigneur te dit, tu es tiède, c'est là ton problème, tu es tiède. Eh bien, aie du zèle et repens-toi. Mais passez par la repentance, mais si vous ne voulez pas passer par la repentance, c'est-à-dire par ce moment où on reconnaît que c'est vrai ce que Dieu dit, non. C'est vrai au fond que je suis comme ça. Et quand vous avez donné raison à Dieu qui vous dit, tu es comme ça, quand vous avez accepté le diagnostic de Dieu dans votre vie, hein, qu'est-ce qui arrive ? Le Seigneur peut intervenir. Un médecin ne peut soigner le malade que quand le malade a accepté son diagnostic et qu'il prendra les remèdes. Mais s'il ne veut pas accepter le diagnostic, il ne prendra pas les médicaments. Comprenez le bien. Et c'est cela que nous devons saisir. Je reconnais que Dieu a raison. Il a raison, il me connaît et je l'admets. Et alors Dieu me donne sa force. Il peut me soigner. Eh bien, celui qui vaincra à Laodicée, il pourra s'asseoir avec lui sur son trône. Donc vous voyez, il y a toujours espoir. Il y a toujours une porte ouverte. Quelle que soit votre situation, comme disait Francine qui nous a écrit d'Israël, que chacun de vous voit sa situation devant Dieu, eh bien, pour chacune de vos situations personnelles ou ecclésiales, il y a une issue. Il y a une porte. Du reste, Jésus a dit, je suis la porte. Vous avez un problème personnel. Moi, je ne peux pas entrer dans tous vos problèmes. Mais j'essaye de vous montrer que, quel que soit ton problème, si tu mets le Seigneur devant toi, si tu as le Seigneur devant toi, il est la porte. Quand Jésus dit « je suis la porte », ça veut dire « je suis l'issue par laquelle tu peux sortir ». C'est Jésus qui sera ta porte de sortie, mais il faut que tu aies affaire avec lui, d'une façon vivante et personnelle. Il faut que Jésus ne soit pas une idée pour toi, mais que Jésus soit vraiment une personne. Et si vous avez affaire avec cette personne, vous avez la délivrance. Oui, je le demande encore, que verriez-vous dans la tsunamite ? Que verriez-vous dans ma vie manifestée à la lumière du Christ ? Laissez la lumière vous manifester et entrez dans la danse amoureuse, ce que j'appellerais la danse amoureuse de la foi et de l'espérance. La danse amoureuse de la foi et de l'espérance. Mon espérance vient d'une promesse de la parole. Et ça, mon espérance. Dieu dit cela pour moi. Dieu me fait des promesses qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. La bénédiction dont tu as besoin, elle est là. Il se dit, bien je le crois, et je vais à Dieu avec ses promesses. Et alors, Dieu est lié. Et moi, ça me bouleverse, parce que vous allez retrouver ça par une boucle de vos cheveux. Ça le lie, Dieu, une simple boucle de vos cheveux. Quand vous croyez ce qu'il vous dit, ça le lie. Il ne peut pas faire autrement que de vous exaucer. Des gens qui ne sont pas exaucés, c'est des gens qui n'ont pas vraiment affaire avec le Seigneur. Mais si vous avez affaire avec le Seigneur, vous pouvez parler d'exaucement. Vous pouvez témoigner que le Seigneur vous a libéré. Vous n'irez pas vous glorifier en disant, ben vous savez, moi avant j'étais ceci, j'étais ça. Mais non, vous allez votre chemin, vous restez voilé. C'est pas nécessaire de crier ça à tout le monde. Le monde vous observe et le monde voit. Et alors, si on vous questionne, eh bien, vous pourrez avec douceur et crainte rendre compte de l'espérance qui est en vous et votre témoignage sera vrai. Et vous n'aurez pas mauvaise conscience après en disant, ben, oui, j'ai dit tout ça, mais j'en ai trop dit. Au fond, c'est pas vrai ce que j'ai dit. Et c'est ça qui donne une mauvaise conscience à tant de chrétiens. La maladie des chrétiens, c'est la mauvaise conscience. Ils ne sont pas heureux. Et on le voit sur leur visage. Ce n'est pas des gens heureux. Alors que vous devriez être des gens heureux. Nous devrions l'être quand nous vivons avec lui dans la lumière. Vous pourriez aussi étudier tous les reviens de l'Écriture. Parce que, au fond, on peut prendre aussi cet exemple. L'Église, qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse pour retrouver, au fond, son unité? Il faudrait qu'elle revienne en arrière. Reviens, reviens. On s'est éloigné du Seigneur. Mais si on revient vers le Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je trouve quand je reviens vers le Seigneur? Je trouve tous ceux qui sont auprès du Seigneur. C'est vrai ou c'est faux? Moi, je ne peux pas être près du Seigneur et loin de ceux qui sont près du Seigneur. C'est le Seigneur qui me met en communion avec ceux avec lesquels il se trouve en communion. C'est pas le fait que j'appartienne à telle communauté qui me fait être uni aux gens de cette communauté. C'est le fait d'être au Seigneur qui me lie aux âmes qui sont au Seigneur. C'est le Seigneur qui est mon lien avec les âmes. Je ne suis pas lié avec des gens qui ont des étiquettes, je suis lié avec des gens qui ont le Christ en eux. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et voyez-vous, Élisabeth et Marie, quand elles se sont rencontrées, qu'est-ce qui s'est passé? Simplement à leur salutation, il y a eu un tressaillement de joie. Et c'est de là qu'est sorti le Magnificat. C'est tellement merveilleux. Quand Élisabeth a vu Marie et qu'elle, Marie l'a saluée, l'enfant a tressailli dans son sein. Quand l'Esprit de Dieu fait une œuvre dans une âme, en Élisabeth, il y avait la formation de Jean-Baptiste. Mais ça venait de l'Esprit de Dieu, puisqu'il n'était plus en âge d'avoir des enfants. Il était comme Abraham et Sarah. Et Élisabeth était visitée quand elle n'avait plus la possibilité d'avoir un enfant. Donc, l'Esprit de Dieu opérait en elle. Il y avait une opération de l'Esprit de Dieu en elle. Et chez Marie, qui avait reçu la visite de l'ange et qui avait dit son oui, qui se laissait faire par le Seigneur, l'Esprit de Dieu opérait en elle. Et deux âmes qui se rencontrent, même après une longue absence, mais quand l'Esprit de Dieu opère, il y a tressaillement de bonheur. On est heureux de revoir un chrétien, de se rendre compte qu'on est avec un enfant de Dieu. Peu importe son étiquette. Ce qui nous lie, alors on tressaille de joie. Mais vous savez ce qui se passe aujourd'hui? Quand les chrétiens se croient, ils changent de trottoir pour ne pas se parler, pour ne pas avoir à se saluer.
Ils savent pourtant que l'autre a aussi la foi, mais il n'est pas de la même communauté, il n'est pas de la même église. Alors, on se connaît comme ça, parce qu'on a peut-être quelques relations, mais enfin, on ne se parle pas de ces choses. Il n'y a pas cet élan, il n'y a pas vraiment cet amour qui déborde. Voyez-vous, il faut revenir à la parole. Alors, nous connaîtrons un véritable œcuménisme spirituel. Un œcuménisme spirituel, je ne parle pas du faux œcuménisme, mais de cette unité entre les croyants de toute la terre. Et nous comprendrons alors les voies de Dieu à l'égard d'Israël et à l'égard de toutes les nations de la terre. Nous comprendrons ce que veut dire les reines, ce que veut dire les concubines, ce que veut dire aussi les jeunes filles sans nombre qui voudraient voir ce qu'est réellement la tsunami. Tous ceux et celles que le Seigneur amènera à lui. Car, notez-le bien, le Christ est mort non seulement pour nos péchés à nous, mais pour les péchés de qui ? Du monde entier. C'est par le sacrifice de Jésus-Christ que les âmes du monde entier peuvent être sauvées. Et même si elles ne le savent pas encore, quand ayant marché à la lumière des connaissances qu'elles avaient, le Seigneur est le juge de chaque âme selon les connaissances qu'il possédait, eh bien, quand ces âmes seront déclarées sauvées, elles apprendront que c'est en vertu du sacrifice de Jésus-Christ. C'est jamais en vertu de leurs œuvres. Mais c'est parce qu'elles ont obéi d'abord aux lois naturelles qu'elles connaissaient. Et c'est pourquoi il y aura des païens qui seront sauvés. Parce que ces païens, s'ils avaient entendu parler de Jésus, ils auraient cru. Et nous devons dans le royaume de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur Jésus. Mais alors, ne dites pas, ben, puisque c'est comme ça, il n'y a pas besoin d'évangéliser les païens. Oui, il faut les évangéliser pour qu'ils puissent jouir déjà, maintenant, de ce merveilleux salut. L'apôtre Paul nous dit tellement bien ce qu'il a comme vision. Il dit, je souffre tout pour l'amour des élus afin qu'ils viennent à la connaissance du salut. Donc, ils sont élus, ce n'est pas moi qui sauve. Ils sont élus dès avant la fondation du monde. Mais il faut qu'ils apprennent à connaître ce qu'est ce salut. Et notre tâche à nous, c'est de leur faire connaître ce salut. Et alors, nous acceptons de tout souffrir pour apporter l'évangile à ces âmes qui seront transfigurées, qui seront transformées, qui n'auront plus peur de la mort, qui ne seront plus sous la superstition et sous certains esclavages. Ils connaîtront la vraie libération. Mais pour faire connaître à d'autres la vraie libération, il faut que notre âme soit libérée. Il faut que nous aussi nous soyons pacifiés. Et alors, nous nous réjouissons de ce que le Christ est pas seulement mort pour mes péchés, mais pour ceux du monde entier. Et quelqu'un me disait, mais ceux qui n'ont pas entendu Christ, qui ont vécu avant le Christ, qu'est-ce qui leur arrive ? Eh bien, tous ceux qui avaient la connaissance du Seigneur qui allait venir, parce que 4000 ans avant la venue du Seigneur, cette promesse d'un libérateur a été donnée au couple perdu. Et chaque âme dans l'Ancien Testament avait cette connaissance. Et ceux qui ont vécu dans l'attente de la venue du Messie, eh bien, ils sont sauvés par la foi qu'ils avaient en celui qui devait venir. Ils ne l'ont pas vu, hein, mais ils croyaient qu'il allait venir. Ils croyaient la parole. Alors, ils sont sauvés en vertu du sacrifice de Jésus qui, à ce moment-là, a porté leurs péchés. Il est dit que Dieu a supporté leurs péchés parce qu'il y aurait le sacrifice pour eux, mais qui se ferait après leur vie. Tandis que nous, le sacrifice pour nos péchés s'est fait avant notre naissance. Mais nous nous rejoignons tous à la croix. Ceux qui ont vécu avant Jésus-Christ avaient mis leur espérance en celui qui devait venir, et nous, nous mettons notre espérance en celui qui est venu et qui reviendra. Comprenez-vous ?
Et c'est cela qui est merveilleux. Alors nous nous rejoignons tous à la croix. Voilà de nouveau les deux camps. Alors c'est une danse Mahanaïm dans le sens que nous nous étreignons ceux qui étaient avant nous et ceux qui sont après. Et il y a une unité merveilleuse. Et quant aux autres, dans certaines autres contrées, qui n'ont pas connu ces vérités-là, Dieu a ses moyens. Et je ne suis pas un de ceux qui disent que tous sont perdus. Parce que, qu'est-ce que je ferai de Dieu? Dieu est un Dieu juste. Dieu est un Dieu grand. Moi, je suis un pauvre, petit, misérable juge. Alors, je n'ai pas à juger. Du reste, ce que Jésus a dit, ne jugez pas. C'est le Seigneur qui est le juge. Alors, nous arrivons maintenant à nos fameux versets. Oh, que le monde qui nous contemple puisse nous dépeindre sous les 7 traits qui sont énumérés dans ces 7 versets. Et on va juste les voir rapidement. Il y a 7 traits que ceux qui nous contemplent doivent pouvoir voir. Et qu'est-ce qu'elle dit? On a demandé que la Tsunamite vienne pour qu'elle soit vue. Et comme on l'a vue danser, qu'est-ce qu'on voit d'abord? Quand quelqu'un danse, j'ai été regardé justement pour m'en pénétrer. Qu'est-ce que j'ai regardé d'abord? Vos pieds, bien sûr. Vous dansiez, j'ai regardé vos pieds. Alors, quand on regarde la Tsunamite, on voit d'abord là ses pieds. Tandis que quand c'est le bien-aimé qui parle, lui, il voit d'abord la tête. Mais quand c'est le monde qui regarde et qui vous contemple, il voit d'abord vos pieds. Il voit votre marche, votre manière de marcher. Il la voit. Et vous savez, alors ça change complètement l'atmosphère parce que vous avez pu penser... Il emploie des expressions bien charnelles. Hein. Eh oui, mais le Seigneur nous a donné un corps. Et alors il emploie notre corps pour nous parler, pour que nous ressentions quelque chose. Que des pieds. Oui, j'ai des pieds. Bon. Eh bien, que tes pieds sont beaux dans ta chaussure. Alors, quelle est ma chaussure? Quelle est ma chaussure? Bailli, batache, je ne sais pas trop. Le zèle que donne l'évangile de paix. C'est cela qui est merveilleux, c'est nous avons les pieds chaussés de ce zèle que donne la préparation de l'évangile de la paix, Éphésiens 6. Nous n'allons pas pieds nus, mais nous avons les pieds chaussés. Et puis, il est dit que même en traversant le désert, les Israélites ont fait une expérience merveilleuse, leur pied ne s'est pas enflé. Leur pied ne s'est pas enflé. Quand on est dans le chemin du Seigneur, on peut faire de longues marches, nos pieds ne s'enflent pas. Il y en a un qui a marché 300 ans avec le Seigneur, et ses pieds n'étaient pas enflés. C'était Enoch, comme nous l'avons vu au début de notre camp, un de ces hommes qui nous a parlé de ce qu'il avait trouvé dans le Dieu vivant. Que tes pieds sont beaux. Ah bien que nous soyons de ces gens qui sur les montagnes annoncent au monde la paix. Dans cette année de paix, que nous ayons des pieds qui apportent la paix et non pas le trouble. Il y a des gens qui ont les pieds rapides pour verser le sang, les pieds de la guerre. Eh bien nous n'avons pas les pieds de la guerre, nous avons les pieds de la paix de Dieu. Et maintenant, oh, vous allez dire le contour de tes hanches. Contour de tes hanches. Ben oui. Puis qu'est-ce qu'il y a? Vous n'avez pas de hanches? Ce serait bien triste. Pas de hanches? Bien, vous les avez artificielles. Ce qu'on en fait maintenant, les hanches artificielles. Le contour de tes hanches, ça vous choque? Mais les hanches, ben, c'est le mouvement, la force, se trouve dans les hanches. Alors, quelle est notre démarche? Parce qu'on vous observe. Est-ce que notre démarche est vraiment le travail d'un artiste quand on vous voit marcher? Le contour de tes hanches. Oui, j'observe vos hanches. Puis je vois, vous dites comme ça. Quand vous marchez, ça tremblote. Vos hanches, ouais. Vous clochez des deux pieds. Quelqu'un qui cloche des deux pieds, ben, le contour de ses hanches, ce n'est pas l'œuvre d'un artiste. C'est vraiment pas l'œuvre d'un artiste. Mais quand on marche selon le Seigneur, on a des belles hanches. Comprenez-vous dans le sens spirituel de ce mot. Mais on vous observe. Je me souviens, le directeur d'un camp, il y a bien des années, où j'étais le prédicateur, me dit, tu pourrais pas aller dire à cette fille qu'elle ne tourne pas son derrière comme ça, parce que ça donne des mauvaises pensées au garçon. J'étais très embêté d'aller lui dire ça. Je voulais pas lui dire ça comme ça, parce qu'il m'avait dit même ça plus grossièrement. Mais il y en a évidemment qui sont remarqués par leur hanche. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tirer les yeux là-dessus? Votre démarche. Et vous savez, Jacob, lui, il a été touché où? À la hanche, justement. Dans ce combat avec Dieu, il a été touché à la hanche, c'est là qu'il a perdu la force. Eh bien, comprenez que par vous-même, vous ne pouvez pas avoir une belle démarche. Laissez-vous saisir par le Seigneur. Et alors, vous aurez un témoignage qui se manifestera par votre marche et votre démarche. Ce sera le travail d'un artiste. Non, par le cœur. Par le cœur, oui. C'est après, au verset 6, tu comprends? C'est le monde qui vous voit. N'est-ce pas? Et le monde, lui, il nous voit d'abord par nos pieds, puis il monte. N'est-ce pas? C'est comme ça. Alors, on nous regarde. On regarde notre démarche. Comment devrait-elle être notre démarche si on est fille de prince? Elle est royale. Votre démarche devrait être une démarche royale. Vous êtes fille de prince. Alors, ne vous tortillez pas comme ça. Et les hommes aussi, c'est la même chose. Nous devons avoir une démarche royale. Distinguée comme les cèdres. C'est beau, mes amis. Et si je me suis laissé aller, bien je m'en vais m'en humilier. Parce que voyez-vous, il faut quelquefois que notre hanche soit luxée pour que nous cessions de marcher d'une manière charnelle. Parce que bien souvent, nous marchons d'une manière charnelle. Or, ça, c'était la marche du vieil homme. Mais le nouvel homme, dans ses nouveaux habits, il a une marche digne et belle. Et nous savons que des mouvements marqués par la beauté sont possibles. Il y a de beaux mouvements qui sont marqués par la beauté. C'est la marche des vainqueurs. La marche des vainqueurs. J'ai parlé des vainqueurs. Eh bien, c'est une marche qui diffère de la marche des vaincus. La marche des vainqueurs est une marche différente de la marche des vaincus. Vous les avez vus, les vaincus? Marcher? Vous avez vu déjà un troupeau de prisonniers? Des vaincus? Eh bien, soyez des vainqueurs et vous aurez une marche. Avec la tête levée aussi. Marchez par l'esprit et vous aurez la marche de gloire. Puis alors voilà ton nombril. Hein? Ben oui, vous n'avez pas de nombril? Vous seriez mort si vous n'aviez pas de nombril. Qu'est-ce que c'est que le nombril? C'est par ce nombril que vous avez été nourri dans le sein maternel. Pourquoi ne pas être dans l'admiration, pas de son propre nombril, mais de penser que Dieu a fait des choses comme ça. Que pendant 9 mois, hein, on a été nourri par ce cordon qui nous reliait à la vie de la mère. On n'avait pas de vie propre, on avait la vie de la mère. Hein. Puis, au bout des 9 mois, nous sommes sortis, on a coupé le cordon, et puis, voilà. Nous sommes là, ben, il reste là, le signe de ce qui s'est passé. Autrefois, nous sommes marqués. Et alors, nous avons vu la marche extérieure d'une vraie fille de prince. Mais maintenant, quand il est parlé du nombril, nous découvrons ce qui caractérise une fille de prince intérieurement, parce que le nombril, ça ne se voit pas, hein, c'est caché. Mais maintenant, on voit ce qui est à l'intérieur. Maintenant que nous avons une vie propre, et de ce ventre, où se trouve le nombril, qu'est-ce qui peut sortir? Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Si vous avez bu l'eau que Jésus donne, cette eau devient en nous une fontaine qui jaillit en vie éternelle. Et puis, il est dit que celui qui croit la parole, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. De sorte que ce nombril est comparé à une coupe. C'est une coupe où le vin ne manque pas. Une coupe qui déborde. On arrive dans le psaume 23. Ma coupe déborde. Ma coupe déborde. Est-ce que vous avez une vie débordante? Une vie intérieure? C'est dont le nombril nous parle, la vie intérieure. Hein, le nombril, c'était la vie intérieure avant. Mais maintenant, nous avons aussi une vie intérieure. Alors, est-ce que vraiment nous avons une vie intérieure et qui déborde? Parce que notre vie extérieure est le reflet de notre vie intérieure. Si on n'a pas de vie intérieure, hein, si on n'est pas un jardin clos, on ne peut pas être les fleuves du Liban. Ce n'est pas possible. Il nous faut donc cette vie intérieure dont nous parle le nombril, et il est parlé du vin. Hein. Et voyez-vous, Élihu, pour montrer que le Cantique des Cantiques nous amène dans toute la Bible, il n'y a pas un livre aussi biblique que le Cantique des Cantiques. Élihu, qui est rempli du Saint-Esprit et de bonnes paroles pour parler à Job, eh bien, il nous dit que son ventre est comme un vin qui n'a pas été ouvert, qu'il éclate comme des outres neuves. Et il emploie cette expression, qu'il a comme du vin là en lui, hein, et que ça le presse tellement de pouvoir parler à Job, de dire ce que Dieu a mis en lui, et il le sent ça dans son ventre, vous vous dites dans mes tripes, hein, je sens ça dans les tripes. C'est vrai, vous dites cela, on le dit. Eh bien oui, ces paroles sont en nous, et c'est la coupe qui déborde. C'est le vin de Cana, c'est la Seine, c'est les joies variées de l'esprit. Puis vous avez ton ventre. Alors, c'est un tas de froment. Le Christ, nourriture des saints. Qu'est-ce qu'on fait avec le froment? Le pain. Alors, vous avez le vin, puis vous avez le pain, le froment. Dans votre vie intérieure, il doit y avoir les deux choses, la joie du Saint-Esprit et cette nourriture des saints. Et les vainqueurs, ils n'ont pas une faible mesure, mais ils ont un tas. Est-ce que vous avez un tas ou une faible mesure? Le pain. Et à quel verset est-ce que vous pourriez penser? Qu'est-ce que le Seigneur dit à Ézéchiel en lui donnant un petit livre? Il lui dit de le manger. Il lui dit, nourris ton ventre de ce livre. Et alors, quand il le goûte, ça a le goût du miel. Puis ça descend dans ses entrailles. Alors c'est là. Et alors il communiquera tout ce qu'il a là. Qu'est-ce que tu as dans le ventre, mon frère, ma soeur? C'est ça. Hein? On peut parler du ventre, mais qu'est-ce qu'on a dans le ventre? Est-ce qu'on est nourri de la parole? Nourris ton ventre, tes entrailles de ce rouleau. Et je le mangeais, et il fut dans ma bouche comme du miel. Et vous retrouvez dans Apocalypse chapitre 10, versets 9 à 10, le petit livre, n'est-ce pas, qui est donné à Jean, et il mange le petit livre qui est dans sa bouche comme du miel, mais qui, une fois dans ses ses entrailles. Verset 10 du chapitre 10. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Et il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations et de langues. Voyez-vous, la parole que l'on prêche, il faut qu'on l'aie là, pas là. Comprenez-vous? Il faut qu'on la vive, on ressent ça dans les entrailles. Et l'amour qu'on a pour le prochain, il est aussi là. Et on peut se donner aux âmes. Ce n'est pas que des paroles, c'est vrai. Alors, encore une fois, je vous dis, de quoi votre ventre est-il rempli? Des biens de ce monde, comme il l'est dit dans le psaume 17. Ils sont remplis des biens du monde qui va passer. Quelles sont vos joies, les joies du ventre? Sers-tu le Seigneur ou ton propre ventre? Romains 16, verset 15. Est-ce que votre ventre est devenu votre Dieu? Philippiens 3, verset 19. Est-ce qu'on vit pour son ventre? Ou bien est-ce que le ventre est vraiment comme un réservoir pour apporter à d'autres une parole vécue? Puis c'est tellement beau, il est dit entouré de lys. C'est l'abondance de ce qui réjouit, mais c'est environné de lys, c'est-à-dire de grâce et d'humilité. Et je pense à la scène où il y a le pain et le vin, et à la scène où il y a le pain et le vin au centre, il y a autour des lys. Et qui sont les lys? Les croyants. Hein? Mais vous voyez, ce n'est pas des gardiens qui gardent la table et qui empêchent les gens de venir. Ce sont des lys. Des lys qui entoure la table. La clôture de lys, elle n'empêche personne de venir et de prendre part à la munificence du roi. C'est beau, mes amis. Est-ce que la table du Seigneur chez vous est entourée de lys ou bien des gardiens qui veulent contrôler toutes les âmes, qui n'ont plus à faire vraiment avec le Seigneur? Le Seigneur est au centre et dit, faites ceci en mémoire de moi. Oui, mais il y a les gardiens là. Alors on n'ose pas s'approcher. Que votre table soit vraiment entourée de lys. Le ventre est entouré de lys. C'est vraiment la sagesse qui dit dans les Proverbes chapitre 9. Venez et mangez mon pain, buvez de mon vin. Proverbe 9. Puis alors après, tes seins comme des pharaons jumeaux d'une gazelle. Cette merveilleuse unité dans le témoignage. Comme des pharaons jumeaux, on en a déjà parlé, beauté, fécondité, unité. Et qu'est-ce que les seins? C'est ce qui nourrit l'enfant. Et c'est la beauté de la femme, de son buste, oui. Alors vous voyez, la description va des pieds qui dansaient à la tête. C'est vraiment le corps du Christ, mais vu d'en bas. Puis il y a ton cou, on y arrive, une tour d'ivoire, symbole de la force. Mais ici, nous voyons à quel prix nous avons reçu la force. Parce que l'ivoire n'est obtenu que par la souffrance de la créature qui le livre. Qu'est-ce que c'est l'ivoire? C'est une défense, hein, l'éléphant. Et pour qu'on ait l'ivoire, qu'est-ce qu'il faut? Il faut tuer l'éléphant. De sorte que l'ivoire, on l'a qu'au prix de la souffrance de celui ou de celle qui le donne. Alors, si nous désirons, nous, que le Christ soit magnifié dans notre corps, nous nous apercevrons que ce n'est qu'en abandonnant ce qui peut remplir notre vie. Il y a des choses que je dois laisser, c'est vrai, et je les abandonne. Et alors,
je peux glorifier le Seigneur parce que j'ai pu abandonner ces choses. L'apôtre Paul, lui, n'a pas hésité. Il dit, les choses qui pour moi étaient un gain, je les ai considérées comme une perte à cause de Christ. Parce qu'il était décidé pour Christ. Mais nous, on ne veut pas abandonner certaines choses. Et c'est ça qui est notre impuissance. C'est cela qui fait que nous retombons toujours parce que nous n'avons pas abandonné. Et voyez-vous, quand le monde voit des chrétiens qui ont des convictions, c'est-à-dire qui ne plient pas, mais qui ont un coup, maintenant un coup d'ivoire, hein, ça tient, et qui traversent le monde, qui traversent les épreuves, en ayant, non pas de la dureté, mais un coup d'ivoire. Il y a la souffrance, hein. Ça parle de la souffrance, l'ivoire. Mais les âmes sont attirées. Quand ils voient ces caractères-là dans la bien-aimée, c'est encore un des traits des vainqueurs. Nous aurons l'occasion de reparler de tout cela. Puis alors les yeux, vous voyez le progrès qu'il y a. Avant, c'était comme des colombes. Puis maintenant, c'est comme des étangs. Comme les étangs de Hesbon, ce qui nous montre une profondeur et une perception spirituelle extraordinaire. Avant, les yeux étaient comme des colombes, et c'était déjà beau, mais maintenant, c'est comme des étangs, paisibles, tranquilles, le regard de la bien-aimée, comme un étang. Et puis, donc il y a progrès, on pourrait parler de Marie de Béthanie, à la fin de du ministère de Jésus. Sa vue était celle d'un étang calme. Puis maintenant, ton nez est comme la tour du Liban qui regarde vers Damas. Damas était la capitale des ennemis infatigables d'Israël, et c'est encore le cas hein, aujourd'hui. Damas. Et alors, ton nez est comme la tour du Liban. Sur la montagne du Liban, on voit jusqu'à Damas. De l'Hermon, on peut voir jusqu'à Damas. Alors, ce nez, qu'est-ce que c'est dans l'Écriture? Qu'est-ce qu'on fait avec le nez? On sent. Hein, c'est l'odorat. Et si vous avez un odorat, vous sentez ça tout de suite. Hein. Ou odeur de vie, ou odeur de mort. Comprenez-vous? Qu'on appelle le pifomètre. Est-ce que vous avez un nez pour discerner tout de suite? Oh, nous dire, mais c'est tellement difficile de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Vous n'avez pas de nez? Employez ce sens que vous avez. On sent tout de suite. Non, ça va pas. Hein? Ton nez, ça doit être une tour qui voit les choses de loin, qui les sent. Ça sent. Ou c'est le parfum, ou c'est la puanteur. Non, moi, pas là. Employez votre nez et vous saurez ce que vous avez à faire. Vous percevrez ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Vous aurez une intelligence spirituelle pour discerner le bien du mal. Puis alors, ta tête au-dessus de tout cela, comme le Carmel. Qu'est-ce que c'est le Carmel? C'est une montagne. Et qui est-ce qui était sur le Carmel? Notre Élie, dont on a parlé encore ce matin, et qui était exaucé sur le Carmel. Ta tête sera comme le Carmel. Tu sauras ce que c'est que les exaucements de prière. Au lieu de végéter, tu seras un de ces vainqueurs qui a des actions de grâce à donner au Seigneur. Et puis, sur cette tête, il y a des cheveux, hein. C'est le dernier. verset. Sur ta tête et les cheveux de ta tête comme la pourpre. Alors, les cheveux, dans l'écriture, c'est la marque de la soumission. C'est la marque aussi de la consécration, comme Samson, mais chez la femme, de la soumission. Dans l'Église, la femme doit être soumise, mais l'homme dans l'Église, est-ce qu'il doit avoir aussi de la soumission? Bien sûr, parce que sur ses cheveux, il y a la pourpre. Et qu'est-ce que c'est que la pourpre? C'est le signe de la royauté. Et qui est-ce qui est au-dessus de l'homme dans l'Église? C'est Dieu. Et il faut que les hommes s'en souviennent. Il ne faut pas seulement qu'ils disent la femme doit rester dans le silence. La femme, là, elle doit être soumise. Mais nous, les hommes, à qui sommes-nous soumis? Nous devons être soumis à Dieu. Vous voyez? Alors, tout est équilibré. La femme accepte la soumission, mais l'homme aussi est soumis à Dieu. Et voyez-vous, ce qui me bouleverse, c'est de penser que, il est dit que le bien-aimé, le monde constate, un roi est enchaîné par ses boucles. Quand vraiment il y a la soumission à la parole, eh bien, ça enchaîne un roi. Et qui est ce roi? Qui est ce roi? C'est le Seigneur. Vous enchaînez le Seigneur. Il ne peut pas faire autrement que vous répondre. Simplement, par votre soumission, par une boucle de vos cheveux, vous enchaînez le Seigneur. Et le monde le sait. Le monde reconnaît cela. Le bien-aimé devient votre prisonnier. Avant, c'était la bien-aimée qui était sa prisonnière, attelée au char du pharaon. Tandis que maintenant, c'est le bien-aimé qui est votre prisonnier. Vous avez pouvoir sur Dieu. Alors, on n'essaye plus de gagner les hommes pour Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? On les gagne par Dieu. C'est tout différent. Parce que moi, je ne peux pas gagner les hommes pour Dieu, c'est toute mon activité alors. C'est ma chair. Mais les gagner par Dieu, c'est là ce qu'il nous demande. Père, nous voulons te demander que tu prolonges toi-même ces lignes, que les uns et les autres nous puissions méditer d'une façon sainte ces passages, que nous ayons un collier pour loin dans nos yeux et que nous puissions recevoir au plus profond de nous-mêmes une bénédiction et nous souvenir de ces choses par ton esprit qui nous fera réaliser qu'elles sont vraies, authentiques, véritables, que nous ne laissons pas courir notre imagination, mais que si nous venons à toi, ô Dieu, avec tes promesses et avec ta parole, en te disant, voilà, Seigneur, tu as dit cela. Je te rappelle cette promesse. Réalise-la pour moi, dans ton amour. Nous serons exaucés. Il ne se peut pas que tu ne nous exauces pas. Tu es lié par ta parole. Et comme ton Fils nous l'a montré, quand nous pouvons dire qu'il est écrit, nous avons la victoire. Donne-nous de connaître cette parole. Donne-nous de ne plus lire la Bible pour avoir lu un morceau de la Bible. Mais donne-nous de la lire parce que nous en avons besoin. Parce que chaque jour, nous avons besoin d'une promesse. Nous avons besoin d'un conseil. Et que, étant ainsi nourri, notre nouvel homme puisse grandir de plus en plus. Et que la chair soit rendue impuissante. Parce que le Saint-Esprit la maintient dans la mort. C'est ce que nous te demandons ce soir pour notre bien suprême. Donne-nous une nuit de repos, mais une nuit où tu parles encore à nos cœurs et à nos consciences. en Jésus.